Thank you, Adam. Je vais inviter Cyriac Soumou de Interconnection Nord-Sud. Cyriac will be speaking in French for those of you who might want to get a listening device.
I'm sorry, I will speak in French, but the most important I have to tell you about my speech, I will explain that this study is very, very, very excellent, but may I speak for African community? The situation is less than what you have seen in the study presented by Professor Jim. La toile de fond ou le point cardinal pour comprendre la situation sociale et économique de la communauté africaine, c'est de comprendre qu'il s'agit non seulement des immigrants de première génération, mais aussi de récentes immigrations. Ça fait deux facteurs combinés qui influencent tous les aspects qui ont été traités dans l'étude qui nous a été présentée ici. Avant 1991, on ne recensait à Montréal que 2500 personnes nées sur le continent noir, sur le continent africain. En 2006, c'est la proportion qui a été bouleversée en termes de nombre le plus, toutes les communautés confondues. En 2006, l'étude montre que la communauté noire africaine est rendue à 27 000. Donc, ça a été multiplié au moins par 10 fois. Il y a une raison à cela. C'est une raison historique qui n'est pas très lointaine. Au démantèlement, à la chute du mur de Berlin, suivi par le démantèlement de l'Union soviétique, et le courant de démocratisation qui a soufflé sur tout le continent africain, la situation n'est pas devenue rose pour autant, mais l'Afrique a été plongée dans des conflits de tous ordres qui ont mis même en péril la situation économique et précaire qui était déjà existante. Si bien que depuis les années 90, on voit un flux d'immigrants d'origine africaine qui sont originaires même des pays qui étaient stables à cause de ces conflits qui se sont complètement généralisés à travers le continent africain. Donc, cette situation de gens qui viennent d'arriver ici devient défavorable en matière d'intégration en emploi, en matière d'accès à la propriété, en matière de sentiment d'appartenance, en matière d'établissement des liens sociaux, la participation civique et politique, la compréhension des uns des us et coutumes, l'appropriation de la culture de la société d'accueil, et j'en passe. Je vous dirai aussi dans cette introduction que la communauté africaine ne forme pas un bloc monolithique, mais il y a quand même des caractéristiques générales. La grosse partie de la communauté africaine ici à Montréal sont des gens qui parlent français, issus des 15 colonies françaises, anciennes colonies françaises, et des 3 colonies, anciennes colonies belges, le Congo, le Burundi et le Rwanda. Il y a un peu d'immigrants d'origine, d'expression anglophone, mais ici à Montréal, ils ne sont pas très, très nombreux. À côté de la langue, qui est un point commun des immigrants d'origine africaine, il y a aussi le niveau de formation. Le niveau de formation des Africains qui sont ici à Montréal, and I invite you to trust me, I haven't done a study, but I meet African each day and I know their difficulties. La plupart des Africains qui sont ici sont dans un niveau de formation de loin, très élevé que la moyenne qui nous a été présentée pour les communautés noires. Ça ne veut pas dire que les Africains sont des gens toujours très instruits, mais c'est que les gens qui ont la capacité, la possibilité d'arriver ici, compte tenu de distance, le Canada n'est pas à la porte de l'Afrique, les gens qui subissent les problèmes d'ordre politique sont des gens qui ont une grande formation ou qui ont occupé des postes politiques ou qui ont les moyens de demander la résidence ou qui ont les moyens d'envoyer leurs enfants au Canada. Donc cela fait que automatiquement les gens d'origine africaine qui sont ici, c'est vraiment de la crème et de la crème, et le niveau de formation, moi, j'encadre les gens au niveau de l'intégration en emploi. Rares sont des gens qui n'ont pas un diplôme universitaire. Donc, la grosse majorité, plus de 80%, ont un grade, ont fait l'université. D'autres ont un diplôme de l'équivalent du cégep ou du secondaire. En matière d'intégration en emploi, la communauté africaine connaît plus de problèmes parce qu'il manque deux éléments essentiels. Le premier, c'est le manque de réseau. Selon les études qui ont été faites, non pas au niveau de la communauté noire uniquement, pour décrocher un emploi, et cela n'a rien à voir avec la discrimination, les principaux atouts, c'est d'être réseauté, d'avoir des connaissances. On dit actuellement qu'au Québec, 80% des emplois sont créés via le marché de l'emploi caché. Donc, quand vous n'avez pas de réseau, quand vous n'avez pas ce genre d'informations, ce sont des chances énormes que vous perdez pour connaître l'emploi auquel vous pourriez accéder. Étant donné cette difficulté d'accès à l'emploi, vous comprenez automatiquement que l'accès à la propriété est encore très, très difficile. En lisant l'étude qui nous a été présentée, j'ai vu des proportions assez encourageantes de Noirs, de la communauté noire à l'ouest de l'île qui possèdent des maisons. Ça peut être à Pierrefonds, à Pointe-Saint-Claire, etc. Mais demandez-vous combien d'Africains sont là. La communauté africaine est presque inexistante dans la région de l'Ouest. Ils sont dispersés. Et quand je dis dispersés, ils n'ont même pas la chance de soutenir un conseiller municipal ou un député parce que ce sont uniquement de simples locataires qui, cette année, sont peut-être dans l'arrondissement de la Chine. Une famille est à la Chine cette année. La deuxième année, elle va à Saint-Laurent, à Saint-Michel, Montréal-Nord, Verdun, etc., etc. Donc ça a des conséquences énormes parce que il ne se crée même pas un sentiment d'appartenance dans un quartier que l'on vit. Je disais aussi qu'il n'y a pas un conseiller ou bien un politicien qui va dire « la communauté africaine est derrière moi » parce qu'il n'y a pas d'agglomération d'occupation territoriale de la communauté africaine et elle bouge tout le temps. Ce qui fait même pour nous qui sommes dans le milieu communautaire, quand nous parlons, il y a des subventions qui nous passent à côté. Parce que quand on nous dit « votre organisme se trouve où, votre clientèle se trouve où », nous sommes obligés de dire que notre communauté, notre organisme couvre toute la communauté, toute, toute la ville de Montréal et Laval et la rive sud aussi. Donc là aussi, il y a des financements qui nous passent à côté parce qu'on n'a pas une concentration, on n'a pas une masse critique dans un coin qui peut justifier auprès des bailleurs de fonds de s'intéresser spécifiquement à cette communauté. J'ai dit que la communauté, dans sa grosse majorité, que la communauté africaine est francophone. Comme ils ont fait des études non seulement du cégep et universitaire, ils parlent aussi anglais. Mais selon nos discussions avec nos amis, nous trouvons que les Africains francophones qui sont venus ici ne trouvent pas avantage du français qu'ils parlent. Le français n'est plus un atout pour eux. Leur anglais, c'est comme moi, est fonctionnel, mais ils ne parlent pas très bien l'anglais. Tandis que ceux qui sont allés dans d'autres provinces anglophones, ils parlent un peu d'anglais, qu'ils améliorent très rapidement, et avec l'atout du français qu'ils maîtrisent, ils s'intègrent plus rapidement en emploi. Ici donc, le français qui a motivé de s'installer ici au Québec, finalement n'est plus comme un atout pour ces communautés africaines. Je dois dire pour les difficultés d'intégrer au marché de l'emploi, il y a aussi on fait face à des préjugés. Il y a beaucoup d'employeurs qui disent que ces communautés étant d'un niveau de formation élevé, qui ne vont pas accepter n'importe quel boulot. Ça, c'est complètement, complètement faux. Je peux vous donner des exemples de tristes mémoires ou des immigrants africains, non seulement qui ont été professeurs d'université. J'en ai rencontré un qui a été recteur d'université, qui, après nous avoir rencontrés pour aider à la recherche d'emploi, il dit, moi, je peux prendre ceci. Après 2-3 semaines, il revient vous dire que, est-ce que vous pouvez m'envoyer au moins à la manufacture? Donc, quand on compare les emplois occupés par la communauté noire juste avec les autres qui occupent des emplois qui n'ont fait que le secondaire ou le cégep, il faut réaliser qu'il y a des situations plus dramatiques que la plupart de ces gens qui ont des niveaux de maîtrise de doctorat gagnent leur vie en travaillant à la manufacture. Et je dois vous dire ici, avant que je n'oublie, que lors de la commission Boucha-Taylor, la communauté maghrébine a pu mettre sur la place les difficultés d'emploi qu'elle connaît. Je voudrais vous dire que la communauté noire africaine n'est même pas encore rendue là, alors que la situation est plus dramatique que les gens d'origine maghrébine. Eux, il y en a qui sont déjà, ça fait déjà pour des raisons historiques aussi, il y en a qui sont ici depuis 4 décennies, il y en a qui ne cherchent plus, qui ont créé leurs propres affaires, qui peuvent intégrer les gens de leur communauté. Il y en a qui ont déjà réussi à se dénicher un emploi à la fonction publique, municipale, provinciale ou fédérale. Mais pour la communauté africaine, je vous dis, dans la plupart des cas, le chemin principal, c'est la manufacture. Parce qu'ajouté à cela, il y en a qui mettent 4 et 5 ans avant d'avoir leurs papiers. Et la situation matrimoniale est la plus stressante. Il y a des dames qui élèvent, qui sont avec leurs enfants ici, pendant que leur mari reste en Afrique. Il y a des maris qui sont venus avec leurs enfants qui sont ici, leurs épouses sont restées là-bas. Il y a de jeunes enfants, de jeunes adolescents, de jeunes universitaires qui sont ici pendant que les parents sont encore là. Donc, des situations diverses, excessivement, excessivement stressantes, par ce fait, comme je vous disais, qu'on est de première génération. On a parlé comme l'accès à la propriété comme quelque chose qui améliore automatiquement le sentiment d'attache d'une ville, d'une région, d'un pays. Je vous dirais que je soulignais aussi que, avec un autre exemple, que les Africains ont même du mal à accéder aux cartes de crédit. J'ai pris connaissance d'une histoire il y a un mois. Quelqu'un qui est parvenu à se dénicher un emploi bien payant. Quand il demande la carte de crédit, on lui demande son bureau de crédit. Un Africain qui est arrivé ici il y a une année ou 2 ans, et qui vient d'entrer dans un emploi quelconque n'a pas une histoire de son crédit. Donc le bureau de crédit d'une banque lui a refusé. On a dit d'ailleurs, c'était une dame, on a dit d'ailleurs, vous avez un bon emploi, d'ailleurs, vous n'avez jamais apporté les factures. Comme les factures étaient déjà au nom, la plupart des factures étaient au nom de son mari, et que c'est la femme qui demandait la carte de crédit, la dame n'a pas pu accéder à avoir la carte de crédit. Donc c'est encore une fois pour souligner que la situation est encore plus basse. En termes d'âge, vous pouvez extrapoler que les communautés, les gens de l'Afrique noire qui sont ici sont en général, il y a moins d'enfants parce qu'il y a beaucoup plus de parents qui viennent s'installer, peut-être monsieur et madame, en attendant que les enfants viennent. Comme il y a moins d'enfants aussi, il y a également moins de personnes âgées. La communauté africaine, le flux d'immigration des gens d'origine africaine date des années 90, comme on l'a souligné. On ne retrouve pas, comme dans les autres communautés noires, des gens d'un âge assez avancé. J'ai parlé du niveau d'instruction et du revenu. Là, il va sans dire que le revenu est vraiment très bas. Je voudrais parler aussi des efforts, la situation que je suis en train de déplorer. Et on continue à frapper sur le clou, mais elle est déjà connue des institutions municipales et provinciales. Il y a des efforts quand même qu'il convient de souligner qui sont faits en direction de ces communautés. La ville de Montréal, par exemple, en collaboration avec le ministère de l'Immigration, finance depuis quelques années un projet qu'on appelle la connexion des communautés noires aux ressources du milieu. Je ne voudrais pas dire que tous les problèmes que l'on connaît, c'est lié à la discrimination. Il y a aussi ce manque de connaissances, de bonnes informations, des ressources, des organismes ou des organismes de l'employabilité. Dans quel domaine est-ce qu'on devrait aller le plus chercher? Pour ceux qui ne le savent pas, en Afrique, généralement, 90% des gens sont recrutés par la fonction publique. C'est le réflexe aussi des Africains qui viennent ici. Ils passent des années à chercher des emplois à la fonction publique. Alors qu'en Amérique du Nord, la fonction publique n'est pas le principal employeur. Il faut informer ces Africains. Ils sont informés. Il y a des Africains qui subissent de la discrimination aux autres et qui plient bagage, disent « je ne suis pas chez moi ». Alors qu'en tant que citoyen de ce pays, il y a des organismes même qui vont défendre. Puis, il va toujours, même après avoir acquis sa citoyenneté, il va dire « non, je ne suis pas chez moi, je vais me taire ». Donc, c'est ce genre d'information qu'il convient de donner. À travers ces projets dont je dirais qui consiste à informer. Nous sommes francophones aussi. Nous devons apprendre comment passer une entrevue. Il y a des Africains qui peuvent évoluer depuis la vingtaine jusqu'à la fin de leur carrière sans avoir jamais passé une entrevue. Donc, il faut informer l'Africain qui a travaillé pendant 20 ans dans son pays, qui était excellent, peut n'avoir jamais dans sa vie passé une entrevue. Ici, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Même quand on est déjà embauché pour accéder à des postes supérieurs, on passe par des entrevues. Donc, il y a des efforts qui sont faits par les autorités municipales et provinciales pour accroître l'information, la sensibilisation. Et nos communautés, de notre côté, nous avons une part à faire. L'intégration, c'est un parcours de combattant. C'est très difficile dans un nouveau pays, surtout quand, pour ces Africains qui viennent déjà âgés, avec une certaine culture déjà ancrée. Ce n'est pas difficile. On parle français, mais on communique avec la plupart des fois des francophones au Québec. Mais la communication n'est pas toujours automatique, même quand vous parlez français. Donc, il y a la culture qu'il faut maîtriser pour convaincre les gens quand vous allez en entrevue, pour socialiser avec les gens avec lesquels vous travaillez ou bien que vous rencontrez. Et la communauté africaine aussi a une part importante à faire, tout comme les pouvoirs ont un rôle à jouer, un rôle d'encouragement, un rôle de compréhension de ces difficultés. Je terminerai en disant, il ne me reste qu'une minute, qu'il y a quand même de l'espoir. Je vais vous donner encore, je vais procéder par deux anecdotes. Moi, j'ai fait mes études en sociologie. José dit que, comme toile de fond, les difficultés que nous connaissons, il faut savoir que les Africains sont de première génération. Selon les études faites depuis le 19e et 20e siècle, même pour les communautés blanches d'origine européenne qui s'installaient aux États-Unis et au Canada, la première génération, c'est une génération qui doit défricher, tout commencer à zéro. On ne peut pas tout attendre. Je ne voudrais pas être content de la situation comme ça, mais les difficultés sont toujours énormes pour la première génération qui doit défricher. Mais elle défriche pour la deuxième génération qui peut encore améliorer les conditions. Et la troisième génération, c'est les études sociales, c'est généralement elle qui peut dire qu'elle est pleinement intégrée. Les deux anecdotes des notes d'espoir sur lesquelles je voulais terminer, c'est deux petits exemples de mes propres enfants. Quand Michael Jean fut nommé comme gouverneur général, mon petit garçon qui avait à l'époque 9 ans ou 10 ans m'a demandé « Hé papa, moi aussi je peux être président de la France ». Je lui expliquais qu'en tant que Canadien, oui, il peut devenir gouverneur général ou premier ministre du Canada. Lui, comme nous écoutons les chaînes canadiennes et françaises, mais vous comprenez qu'il a déjà placé la barre très haut. C'est déjà de l'espoir et j'en étais très content. Et ma fille, qui est née ici, quand on lui demande qui elle est, moi, je suis d'origine burundaise. Je suis venu ici au Canada pour les études de doctorat, puis je suis resté ici. Ma fille, qui est née à Québec, quand elle se définit, elle dit, moi, je suis québécoise, puis canadienne, et puis burundaise. Et ça, c'est très important. Parce que je veux vous dire qu'il y a les Africains qui sont venus comme moi, âgés, même quand ils disent chez nous, mais après 20 ans, 30 ans avec la citoyenneté canadienne, chez nous, c'est au pays d'origine. Mais vous comprenez, les enfants naissent ici, quand ils intériorisent qu'ils sont québécois, québécoises, canadiens, il y a aussi automatiquement une défense des droits qui sont liés à cela. Je vous remercie pour l'écoute que vous. J'aurais aimé présenter en anglais, mais je m'excuse, je n'aurais pas exprimé autant que je le fais en français. Merci.